FM 93.
Que Québec se lève.
Chronique Virage. Avec Daniel Boudreau.
Vos questions pour Daniel Boudreau, si vous êtes en train de magasiner une voiture et que vous hésitez entre deux domaines, ou que vous avez une expérience particulière avec une voiture sur laquelle vous avez besoin de l'éclairage d'un spécialiste, Daniel Boudreau, c'est l'animateur de l'émission Virage, c'est celui que vous connaissez, répondre à toutes vos questions là-dessus, facile pour lui, 25-226-670-9330, Alexis, tu réponds au téléphone, et oui. Nous allons également surveiller notre courriel, je dis ça puis je viens de l'éteindre. Vérifier notre courriel à studio@fm93.com. Salut Daniel.
Oui, salut, comment ça va?
Oui, t'arrives fatigué un peu?
Ouais, un petit peu. Là, évidemment, là, je peux reprendre tes sujets dans ma tête, moi.
Ah oui?
Parce que les avions, évidemment, j'ai eu mon lot de péripéties avec le dernier voyage. Je suis allé essayer le Toyota Highlander à San Antonio.
Hey, c'est une belle ville.
C'est une belle ville.
Ils ne le font jamais essayer dans des basses plates, hein, ces voitures-là?
Non, c'est ça. C'est assis, c'est vraiment un bel endroit pour essayer les véhicules. Ça dépayse, comme on dit, par chez nous. Donc oui, j'ai essayé ça et évidemment, j'ai eu des problèmes avec les avions. Je veux te parler aussi peut-être du tramway, parce que pour moi, tantôt ce que vous avez jasé, densification de population, ici à Québec, la façon dont on a arrangé le tramway, bref, on est un peu hypocrite parce que avec les normes et avec le PTI, avec les règles en place, on ne permet pas de densifier la population.
Ouais.
Et on fait de l'étalement urbain et on permet de la construction à hauteur un peu plus à l'extérieur de la ville, alors qu'on met le tramway sur une artère qui est déjà construite, qui est déjà pleine. Donc, on peut pas densifier la population là pour le tramway. Il faut amener les gens. Et toi, tu disais...
Ben, la Baume, il parle toujours d'un outil de développement. Il parle jamais d'un service qu'il implante. Alors, il y a le phare. Il espère ramasser des millions de dollars de taxes par le phare. Il y a le secteur de Legendre, où le tramway va aboutir parce qu'on a besoin d'un garage pour le serrer, puis où il espère qu'on va construire également dans ce coin-là. Puis il y a les terrains des Sœurs de la Charité, que le tramway où le tramway va achever à Charlebourg, loin des terrains des Sœurs de la Charité, sauf qu'ils viennent de se faire dire non pour ce secteur-là. Fait que t'as raison.
Le long du tracé, tu vas densifier la population comment? Et toi, tu parlais des axes nord-sud. C'est exactement là que le point est ces temps-ci. Là. Donc, il faut réussir à débloquer les axes nord-sud. Et le tramway devrait faire un U, devrait s'en aller jusqu'au l'ancien zoo.
Ouais.
Et construire et faire au moins un stationnement incitatif majeur là. Et tu devrais avoir du côté de Val-Bélair la même chose où ton tramway pourrait faire un U. Un jour, il pourrait faire un O. Puis un autre jour, il pourrait faire un autre O pour s'en aller du côté de Saint-Nicolas jusqu'à Lévis. Et là, tu as un projet global qui serait dans le sens du monde. Bref, ça, c'est autre chose là, matin. Je voulais te parler de mon Highlander, mais je peux pas.
Comment ça?
Parce que c'est... Je suis sous embargo.
Tu peux pas en parler jusqu'à quand?
Ben non. Jusqu'au 18 décembre, si je me trompe pas. Je peux pas te donner les prix. Je peux pas te dire s'il va bien, s'il va pas bien.
Okay.
Je peux te dire s'il est beau. Oui, il est beau. Mais c'est pas spectaculaire au niveau du design. On l'a amélioré passablement. Version hybride encore de disponible. Ça, je peux te dire ça. Je peux pas te dire la consommation de la version hybride.
C'est bien drôle, ça.
Parce que, on peut pas le dire, c'était l'avant-première mondiale. Donc, il y a des vagues américaines et tout ça. C'est pas tout le monde qui a réussi à le conduire. Donc, on peut pas dévoiler les punchs. Et l'économie hybride va être un punch pour un véhicule de cette dimension-là. Là.
Oui.
Je peux dire que ça va être assez intéressant.
Peux-tu nous dire si tu penses que ça va marcher?
Je peux te dire que... ça va être difficile d'en avoir.
Ah, OK. Ah ouais.
Un peu comme le RAV4 hybride, là, où on court après.
Oui, c'est parce qu'il n'y a pas un gros écart de prix entre le RAV4 hybride et le RAV4 tout court. Si bien que les gens prennent la version hybride, je pense que c'est 2 200 $ de différence. Sauf que le résultat, c'est que tu n'es pas capable d'avoir des RAV4 hybrides dans un délai raisonnable. Je pense que ça prend 3 mois, là.
Et je suis pas capable de vous dire l'écart de prix entre la version essence et la version hybride au niveau du Highlander, mais on a conservé la même recette. Par contre, on est resté à 3 500 livres de capacité de tir avec la version hybride.
Ah.
Alors que Ford propose un Explorer où, en version hybride, on peut aller jusqu'à 5000 livres. Donc, de ce côté-là, on aurait pu faire un petit effort. Mais je peux pas vous en dire plus. Je veux pas me faire suspendre ou taper sur les doigts. Là, ça serait épouvantable. Mais on va avoir peut-être la chance
Il t'a même essayé ça, mais tu peux pas en parler. Ils sont bizarres. ils sont vraiment bizarres.
Je déteste les embargos. Je déteste les embargos. Je savais pas qu'il y avait un embargo sur le voyage. Des fois, je refuse d'aller faire l'essai du véhicule. Parce que ça donne rien quand. Mais là, l'embargo est quand même pas tellement loin. Là, 18 décembre, c'est pas une catastrophe. Il y a aussi des offres de Noël que j'ai regardées, Myriam.
Oui.
Parce que là, c'est le temps de Noël. Puis je pense que les constructeurs vont devoir faire un petit effort pour aller travailler un peu leur offre. Parce que là, on réchauffe d'anciennes promotions, puis on est dans le 0%. Puis dans le traditionnel 0%, 60 mois, 72 mois, 84 mois, dépendamment de la compagnie. Il y a Kia qui fait un petit effort, puis qui fait tirer un 10 000 $ là, que tu peux gagner un 10 000 $ qui semble un peu intéressant. Pour les autres, c'est des promotions réchauffées.
C'est
des promotions que tu vas avoir le 15 janvier, puis que tu vas avoir peut-être, que tu avais peut-être le 15 juillet. Là. Donc, ça semble pas vraiment intéressant. Des rabais sur des pneus. Il y en a qui te donnent un crédit sur des pneus à neige, puis d'autres un crédit de 500 $ en affaires. C'est pas des promotions alléchantes. C'est pas des promotions excitantes. C'est ça. Il reste du temps. Il reste du temps, mais je pense que si on veut avoir un Boxing Day dans l'industrie automobile, dans le sens du monde, on va devoir travailler un peu plus fort.
Est-ce qu'il y a, toi qui fréquentes des gens qui aiment les autos, y a-t-il des cadeaux de Noël à prix raisonnable qu'on peut donner à quelqu'un qui aime ça, qui aime sa bagnole?
Non, peux, à part, à part le véhicule, pour les jeunes qui conduisent souvent des voitures un petit peu, qui ont un peu d'âge, d'anciennes Yaris, d'anciennes Corolla, anciennes, mais je parle de véhicules qui ont plus de 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est des véhicules qui n'avaient pas de système Bluetooth pour les cellulaires. Et les jeunes avec les cellulaires au volant, il y a beaucoup de petits bidules, je ne sais pas c'est quoi le terme, mais il y a beaucoup de petits bidules Bluetooth qui permettent de brancher son téléphone à sa voiture. Dès qu'il y a une prise auxiliaire sur le véhicule, tu es capable de brancher puis d'avoir ton cellulaire et ne pas toucher à ton cellulaire. Un simple petit support à cellulaire.
Qu'on met des grilles de ventilation, là?
Quand on met des grilles ou peu partout, c'est des éléments qui vont pouvoir rendre service. Non seulement c'est un cadeau de Noël que peut-être la personne qui va le recevoir sera pas le plus excité au monde, mais quand tu dis que ça peut te sauver un 300-400 $ puis des points d'inaptitude quand même élevés sur différentes infractions que tu peux avoir avec ton cellulaire, c'est des cadeaux qui, à la longue, peuvent être appréciés. Moi, je l'ai fait avec mes filles. C'est vraiment intéressant d'avoir ces affaires-là. Donc ça, c'est des cadeaux pratico-pratiques qu'on peut avoir, mais regardez les balles à neige.
Ben oui.
Des gens, ils sortent.
J'en ai un télescopique, pivote, il fait tout.
Ouais,
là, il parle pas, c'est bien juste.
Est-ce qu'il y a des poils ou il est en tissu
Il y a des poils d'un côté, puis il y a un racloir de l'autre côté, puis il y a un crouch, 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 crouch.
Le service à rendre dans le balle à neige, c'est pas le balle à neige lui-même, mais c'est d'éliminer les poils. On veut pas avoir de ces poils qui créent des cheveux d'ange puis qui égratignent un peu le clear de la peinture, la couche transparente de la peinture, puis qui fait en sorte que là, au soleil l'été, tu vois plein de petits.
Je veux dire, je me suis fait fourrer avec mon balai télescopique là.
Ben pas au complet parce que t'as juste un bord, t'as juste un côté qui a pas. Mais il faut utiliser ces nouveaux balais à neige qui ont pas de poils puis qui évitent des gratinières.
Dans genre de mousse là.
Ouais, genre de mousse là, synthétique. Ça, c'est vraiment pratique, vraiment utile. Et il y a des têtes pivotantes comme ça où tu peux l'avoir de côté ou tu peux l'avoir en T. Quand tu l'as en T, tu pousses la neige, tu tires la neige, tu sauves 2 minutes du matin. Ça, c'est énorme le matin, donc tu peux sauver un peu de ton temps. Ça, c'est un autre côté pratique. Et le cadeau que moi, je préfère le plus, c'est les trousses de sécurité. Vous allez dans différents endroits, il y a des petites trousses de sécurité qui sont minuscules. Là. C'est pas encombrant, c'est tout petit. Et tu t'en vas là-dedans. Souvent, même, il y a des petits câbles de survoltage qui, sont pas les plus efficaces au monde, mais sont là.
Ça, j'en ai donné à mon fils l'an passé, des câbles de survoltage.
Toutes sortes de trucs, de bidules, de couvertures, de petites affaires pour signaler si t'es sur le côté du chemin que tu peux aller porter à une certaine distance. Donc, ça, c'est un et même des couvertures. Il y a une genre de petite couverture de toile, là. Bon. Ça peut être utile. Donc, ça, c'est un cadeau aussi. C'est un cadeau à faire. Et on peut donner des entretiens d'auto. On on peut donner du nettoyage d'auto. Qui va faire, prend le temps d'aller nettoyer sa voiture? Tu t'en vas dans un endroit où il nettoie la voiture, tu prends un bon cadeau, puis tu le donnes. Ouais. Tu donnes un anti-rouille. C'est des cadeaux qui sont durables, qui sont appréciés.
Bien, appréciés, oui, je crois, mais surprenant aussi, parce que l'année passée, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une grosse boîte à mon chum qui m'empruntait tout le temps mes Traction Aid, puis qui ne remettait pas dans ma voiture, comme un enfant, finalement. Oui. Tu prends tes choses, tu le sais pas, puis il y a un moment, ils sont plus là. J'ai fait une grosse boîte, ça avait l'air super, là, une boîte extraordinaire, bien emballée. Tu avais des Traction Aid, des câbles à booster, une pelle rétractable, puis deux pains de lave-glace.
Et c'est toi qui as acheté ça à ton chum?
Ben, tu penses-tu que c'est lui?
Ben non, mais là,
réfléchis. Hey. Non, mais pour vrai, réfléchis entre lui et moi, qui pourrait acheter ça à
l'heure. Je le sais, mais...
C'est un peu hors du commun, mais c'est le cas.
On a plein de questions qui sont rentrées. Daniel, veux-tu...
Oui, oui, oui.
Alexis, veux-tu faire une pause avant qu'on aille aux questions?
On peut faire une petite pause.
FM 93. Que Québec se lève. Chronique Virage. Avec Daniel Boudreau.
Vos questions pour Daniel Boudreau. On commence par un camionneur qui est parti toute la semaine. C'est donc dire que mon véhicule passe la semaine dans le stationnement de la job et que par le fait même, je fais très peu de kilométrage avec mon véhicule. Je cherche une voiture pour tirer une petite tente roulotte. J'ai pensé à un CRV des années 2010-2013. Qu'en pensez-vous?
Non, moi, j'irais pas dans ce côté-là. Du côté d'un... Ben, 2.4 litres... c'est moi je pense que j'irais davantage dans le traditionnel, même si la roulotte n'est pas très lourde. Faut tracter, faut le bagage, faut aussi faut ça. Le CRV, c'est pas le véhicule idéal pour faire ce genre de travail-là. Donc, je m'en irais dans le Santa Fe, je m'en irais dans le Sorento. Même dans les versions 4 cylindres, je pense que c'est un petit peu mieux. Même dans ces années-là, j'irais même pas avec le RAV4, donc je resterais dans ces véhicules-là. Je pourrais me trouver également si on veut dans le... J'irais dans ça, puis si c'est possible, même un V6. Je comprends pas pourquoi on veut tracter avec le 4 cylindres, ça le fait. Ça dépend du genre de kilométrage. Mais si c'est possible de se donner un peu de marge de manœuvre, on y va. Peut-être aller dans l'un peu plus gros si on trouve un Toyota Highlander de ces années-là, que je sais que c'est plus dispendieux. Si on trouve un Pathfinder, c'est plus dispendieux aussi. On peut descendre de catégorie, mais dans l'intermédiaire, je resterai dans ces eaux-là.
Ça va être un peu serré. Toi, tu m'as déjà dit qu'il faut compter 50 % de plus de charge que ce que le fabricant de la roulotte te donne.
On n'a pas idée. Faites-le. Faites-le. Quand vous partez, vous avez votre poids à vide de votre unité à l'arrière. Vous placez tout le bagage à l'intérieur. Vous vous en allez sur une pesée. Puis vous faites le saut. C'est public. On peut y aller. On peut y aller le faire.
C'est fou comment, Myriam, je sais pas si tu as remarqué de chronique en chronique à quel point on commence à avoir de plus en plus de questions sur les voitures électriques, hybrides ou tout ça. On en a une justement. J'ai une Prius V depuis 7 ans. Je suis très satisfaite. Je veux changer l'an prochain. Quelles sont mes options? C'est drôle quand même. Je suis très satisfaite, mais je veux changer l'an prochain.
Ben oui.
Quelles sont mes options si je veux une hybride qui se branche? La Prime, une autre marque ou bien j'attends la RAV4?
Ben, ça dépend des moyens financiers, parce que moi, c'est sûr que le RAV4, vous gagnez un intégral, même si la Prius, maintenant, on peut l'avoir en version intégrale, mais il n'y a pas l'espace, parce que là, si vous avez une V, vous avez besoin d'un petit peu d'espace.
Quand j'ai essayé la Prius Prime, de voir le niveau, la hauteur du coffre arrière. On perd beaucoup d'espace à cause des batteries.
Ben oui, puis ce qu'on semble gagner en espace beaucoup avec le RAV4 Prime, 63 km d'autonomie, c'est quand même considérable. Donc, vous êtes déjà du côté de chez Toyota. Moi, je placerais déjà une commande sur le RAV4 Prime et je croiserais les bras puis j'attendrai, parce qu'il va falloir être très patient.
Parce que la Prius Prime, là, elle a une Prius V. Ça, c'est celle qui est station, là, que les taxis adorent.
C'est ça. Puis, donc, avec
elle
plus
a de la place, là. Elle en aura pas mal moins dans la Prius.
C'est le RAV4. Et présentement, dans le sport utilitaire, c'est le Outlander qui est son concurrent numéro un, qui a une superbe garantie, qui est l'option si vous voulez pas attendre tout le temps pour le RAV4 Prime, parce que je pense que ça va prendre peut-être 12 à 18 mois avant d'avoir un véhicule RAV4 Prime entre les mains. Donc, ça va être une denrée rare.
Tu prémédites ton changement de char. 12 à 18 mois avant. C'est
ça. Toujours bien un an et demi, ça.
Oui, mais satisfait en ce moment.
Si vous allez le commander aujourd'hui, je vais vous dire, oui, ça va prendre la patience. Sinon, c'est Outlander branchable qui est peut-être la solution.
Ça a été ma solution à moi pour traîner ma petite roulotte.
Ça dépend de l'économie que vous avez de besoin.
Sur la grande route, expérience faite, là, sur la grande route, il n'est pas très économique, là, le Outlander branchable. Mais aussitôt que tu es en ville, il ne te coûte rien.
C'est ça.
C'est ça.
Tous les véhicules électriques, hybrides, c'est l'utilisation urbaine qui fait la différence.
C'est vraiment
ça. Si tu fais de la grande route, tu n'as pas besoin de ça.
Je veux un VUS, écrit un auditeur, représentant sur la route, déplacement remboursé, 40 000 km par année. Quel véhicule me recommandes-tu?
CX-5 diesel. Avec autant de kilométrage, c'est le véhicule qui va vous donner d'abord une garantie de 3 ans, ce que vous ne trouverez pas dans l'industrie parce que vous allez dépasser le kilométrage assez rapidement. Vous allez avoir de la résistance et vous allez avoir de la valeur de revente. Ce qu'on recommandait avant et ce que je recommandais avant beaucoup pour les gens qui faisaient de la route, qui travaillaient sur la route, c'était toujours les Jetta diesel. Les gens, ils aimaient, étaient contents, c'était
avec
économique.
Avec le bruit particulier.
Avec
hein?
ça, c'était les Golf et Jetta diesel, c'était parfait. Tout le monde voulait avoir ce moteur-là dans un Tiguan, ce qui était déjà prévu avant le scandale, mais qui a été annulé, évidemment. Donc là, vous avez un sport utilitaire, vous avez de l'espace, vous avez de l'économie de carburant parce que vous allez jouer 7-8 litres aux 100 km. Vous avez une traction intégrale et vous avez un véhicule qui va avoir une garantie illimitée de base. Parce que Mazda, on l'oublie souvent, mais la garantie est 3 ans, mais kilométrage illimité.
Ah, OK.
Alors, les gens qui font beaucoup de kilométrage, au lieu d'avoir la garantie de 60 000 km de base, là, tu sais, le 3 ans ou 60 000 km,
ben, lui, ou le 100 000 km par année, il en a pour un an et demi, puis c'est fini. Non?
Ben, c'est ça. Donc là, vous allez avoir une garantie complète de 3 ans sur votre véhicule. Et après 3 ans du kilométrage, si vous faites l'entretien normal, vous allez... Oui, ça va à l'encontre là, du bon discours présentement, sauf que c'est un superbe choix.
Quelqu'un demande, il me reste un an à ma location d'une Civic 2016. Je regarde pour un VUS d'occasion qui a de l'espace, le plaisir de conduire et qui est fiable à long terme. J'hésite entre le Subaru Forester 2.0 XT et le Mazda CX-5 GT ou GS avec AWD.
Oh oui, <2016. Drive. rire>
Année 2016. Qu'est-ce que tu me suggères entre les deux?
Le Forester Turbo va être un petit peu plus agréable à conduire que le CX-5 GT. Mais il y aura pas avec le 2.5, il y aura pas une grosse différence. Mazda sont quand même assez le fun à conduire. Donc, c'est deux véhicules à peu près équivalents. Si vous aimez le style du Subaru, tant mieux pour vous, du Forester. Moi, j'aime moins. Donc, le chic et de bon goût du Mazda GT 2.5 me parle beaucoup plus que le Forester. Mais ça, c'est une question de goût. Là. Évidemment, on n'a pas... Les goûts, ça sont dans le...
Et les Subaru ont un peu toutes la même allure. C'est, puis de modèle en modèle, c'est comme s'ils avaient pris du stéroïde, tu sais.
Mais Daniel, visiblement, l'auditeur est intéressé par la traction intégrale. Est-ce que celle de Mazda est comparable en termes de performance à celle de Subaru qui a été réputée tellement longtemps? Là?
C'est ça qui est épouvantable. Moi, j'ai fait des tests de petits véhicules. Tu sais, toutes les CX-3, j'ai pris le CX-3 puis j'avais tous les autres petits sports utilitaires de la même catégorie. Et l'une des meilleures tractions qui s'est révélée dans les tests trois quarts, lorsqu'on prend un obstacle en trois quarts, donc le véhicule vient même un peu, des roues deviennent un peu dans le vide.
Oui.
Et Mazda s'est très bien débrouillé avec le Crosstrek, d'ailleurs. Donc, la traction intégrale, elle est très bonne. Elle s'appelle la iActive, mais on ne la publicise pas. Contrairement à la symétrique de Subaru, puis les autres que Formatic, puis les autres qui publicisent leur traction intégrale. Alors oui, elle est efficace. Peut-être pas la meilleure du marché. Mmh. Elle réagit peut-être pas aussi vite que la meilleure, parce que chez Subaru, on a des catégories de traction intégrale également. Peut-être pas aussi réactive, aussi rapide, puis elle laisse peut-être pas le même pourcentage, parce qu'on sait qu'on a un pourcentage constant à l'arrière du côté de chez Subaru, mais elle est très efficace.
Okay.
Alors, peut-être un peu plus de performance pure au niveau de la puissance du côté du Forester. Alors, un essai routier, vous allez voir les deux véhicules, mais moi, vous prenez un des deux, ça me dérange pas.
Le CX-30 de Mazda, est-ce que ça te dit quelque chose?
Oui, j'arrive du voyage.
Es-tu encore sous embargo pour celui-là aussi?
Non.
OK.
Je suis allé à San Diego essayer il y a 2 semaines.
OK.
Je suis revenu quelques jours, puis je suis reparti à
faire l'essai
du Highlander.
Une vie de misère.
Oui, j'ai fait l'essai de ce CX-30-là qui fait en sorte que moi, je dis que Mazda sont dans le trou.
Sont dans le trou?
À l'interne avec ce véhicule-là.
Comment ça?
Parce que il fait tout de bien. C'est le véhicule, le CX-3 est plus trop petit.
Oui.
Donc, il y a plus d'espace que le CX-3. Le CX-5, si vous n'avez pas besoin d'un gros véhicule, vous allez avoir presque le même espace à l'intérieur que le CX-5 dans un véhicule qui commence à 23 000. Donc, ce véhicule-là, avec ses deux choix de moteur, tu as le 2 litres, tu as le 2.5, donc 150 et 186 chevaux, si je me trompe pas. L'insonorisation à outrance, qualité de finition à l'intérieur. Mazda s'en va vraiment vers le haut de gamme.
Okay.
On le voit, leur finition, la qualité des matériaux.
Ça va coûter combien?
Ben, le plus dispendieux est à 33 000.
Okay.
Donc, c'est quand même assez raisonnable dans le marché. C'est qu'on, dans tous ces véhicules-là, si on prend les ROG, dans les versions les plus haut de gamme, il est dans les mêmes prix, peut-être même un peu moins cher pour le niveau d'équipement. Mais il va cannibaliser bien des véhicules à l'interne.
Okay.
Oui, il va être concurrent à l'externe, puis il y a la concurrence est féroce là, les Tucson, les Sportage, toutes ces affaires-là, c'est très concurrentiel. Mais la Mazda 3 all-wheel drive, par exemple, ça va, les prix chevauchent, un CX-30 va faire l'affaire. Donc oui, à tout point de vue, ce véhicule-là, ça va être un succès.
C'est donc Martin a raison de l'attendre.
Ah oui, il faut l'attendre.
Okay. On te demande Golf 2017 de base. Location se termine avril 2020, approximativement 60 000 km. Je l'adore, très propre, aucun problème mécanique. J'achète ou j'en loue un nouveau?
Ça, c'est toujours la bonne question. Faut faire les calculs. Faut regarder les promotions. L'acheter, il n'y a aucun problème. 2017, vous l'avez entretenu, vous le connaissez, tout ça, il n'y a aucun problème. Mais là, on doit aller regarder c'est quoi la valeur résiduelle, à quel taux si on le finance, et regarder selon nos moyens, sur quel terme. Si on met ça sur 5-6 ans, on est obligé de mettre ça sur 5-6 ans. Là, faut faire le calcul parce que là, le véhicule va commencer à vieillir, le kilométrage et tout ça. Donc, au niveau versement, et aller voir les promotions pour la location d'un véhicule actuel. Si la différence est énorme, vous allez payer le même prix, vous allez avoir un véhicule en fin de vie, là, au bout du terme, lorsque vous allez avoir fini de le payer. Donc, il y a un calcul financier à faire à tout ça. Je suis pas contre le rachat d'un véhicule à location, mais si vous voulez acheter et posséder votre véhicule, vraiment, faites-le lorsqu'il est neuf. Faites-le tout de suite en partant. Donc, pour moi, on change, mais on ne reloue pas cette fois-là. Si vous voulez acheter, vous rachetez une nouvelle Golf, puis on est parti pour un bout.
OK, mais il ferait mieux d'en racheter une neuve que d'acheter celle qu'il a bien aimée.
Au lieu de faire le transfert, parce que celle qui a bien aimé, à moins que tu payes comptant puis tu as ramassé l'équivalent versement, parce que c'est ça la location, si vous voulez le racheter, là. Dès le départ, vous faites le calcul avec achat 5 ans, location, OK, on sauve 150 par mois, on prend le 150, on le met dans le compte de banque. Tu sais, tu vois, après ça, on débourse le reste. Mais personne ne fait ça, là. C'est tout à fait normal.
Daniel, il y a Jean au téléphone qui a une question pour toi.
Oui, vas-y.
Allô? Bonjour.
Oui, bonjour. C'est ça, je vous écoute parler des petits SUV. Moi, j'ai regardé pour la Kona, traction intégrale. Je voudrais vous entendre là-dessus.
Super véhicule. Hyundai Kona, super véhicule, bien construit. À venir, jusqu'à maintenant, j'en suis deux qui sont près de moi, là, qui ont acheté les Kona et il n'y a aucun problème. L'hiver dernier, j'ai quelqu'un qui s'est plaint parce que à moins 30, si on laisse le véhicule en mode économie, on perd un peu de chauffage. On gèle dedans. Donc, il faut enlever le mode économie puis le mettre en mode sport. Je dirais, le moteur révolutionne un peu plus, puis là, on a un peu plus de chauffage, mais on n'a pas beaucoup de ça, heureusement. Mais dans l'ensemble, il est bien construit, bien fini. Peut-être la version 1.6 avec la transmission, c'est à faire l'essai, là, parce qu'on veut aller chercher un petit côté sportif, c'est peut-être pas nécessaire. Même le 2 litres, moi, je le recommande avec transmission régulière.
Ça va, Jean? Merci.
Parfait, merci beaucoup.
Au revoir.
Bon achat.
Daniel, ça va se terminer
ben
là-dessus. Joyeux Noël, bonne année.
Avec Myriam Segal.
Avec Myriam. Hey, Myriam, profite du bon temps. Tu l'as mérité, alors amuse-toi.
Je vais
sûrement avoir l'occasion de se reparler.
Certainement.
Si tu as des questions d'auto, écris-moi.
J'hésiterai pas, inquiète-toi pas. J'ai eu des belles expériences avec ma voiture qui est branchable.
Ben oui.
Trois expériences intéressantes. Traversier Saint-Siméon-Rivière-du-Loup. J'ai eu le crédit, donc j'ai payé 20 $ pour traverser, alors que d'habitude, ça me coûte 85 $.
Aïe, ça, c'est...
Deuxième expérience agréable. Je vais dans le IGA de Quartier Cubé. Le stationnement est plein à ras-bord. Il y a une borne gratuite. Pouf, me suis branché, j'ai pu stationner alors que tout le monde tournait en rond. Et troisième expérience fantastique. Vendredi matin, 8h15, c'est du pare-choc à pare-choc sur Robert Bourassa. Me mets dans la voie de gauche, puis bonjour tout le monde! Ça m'a pris 5 minutes à moi.
Wow, ça c'est le fun. Fait que restez en contact et Pascal, bonne chance pour ton nouveau défi.
Merci, c'est gentil.
Ben, il est 9h40.